chers amis de PSC, bonsoir. Bienvenue dans cette réunion à Romainville, une des premières de cette nouvelle année et une des premières où il y a aussi un renouveau de participation. Nous sommes un peu en plus grand nombre que d'habitude. Bienvenue, nous sommes le dimanche 18 janvier 2015, environ 2015. C'est peut-être 2027 ou voilà. Nous sommes un peu sortis du temps avec cette belle méditation à plusieurs. Voilà, on va faire un petit tour de prénom. C'est possible de saluer les personnes auxquelles on pense ou qui sont physiquement absentes.
Bonsoir tout le monde, c'est Nicolas. Bonne année tout le monde.
Bonsoir, c'est Claire.
Bonsoir, c'est Christine. Je salue Lina. Nancy et tous les autres.
Bonsoir, c'est Michiko et mon corps est tellement content. J'ai pas tellement besoin de parler.
Bonsoir, c'est Catherine.
Bonsoir, c'est Ludmila et bonne année à tous.
Bonsoir, c'est Jacques.
Bonsoir, c'est Véronique et bonsoir à vous tous, tous nos amis de PFC. Bonne année 2015.
Voilà, alors Souti dit bonne année aussi. Souti, bonne année pleine de fromage, de bon fromage. Bonsoir, c'est Avi. Je porte mes pensées vers Lina. Je te souhaite, Lina, une merveilleuse année avec la réalisation de tes rêves et puis toute la transformation qui peut être bénéfique pour cette année, bénéfique pour toi. Voilà, alors peut-être y a-t-il une actualité depuis le temps qu'on ne s'est pas retrouvé dans un forum aussi grand. De quelle manière le monde change-t-il pour vous personnellement? De quelle manière le monde change-t-il autour de vous? Qu'est-ce qui est visible, notable? Qu'est-ce qui nous amène subrepticement d'un monde à l'autre, un micro-mouvement à la fois? Parce que j'ai cette intuition forte que nous serons amenés à une étape suivante de conscience, mais pas d'une manière réellement rapide ni brutale, mais que ça va se faire un changement à la fois. Je peux me tromper, mais en même temps, les êtres de lumière, les frères des étoiles qui nous transmettent leur message, ont à cœur de ne pas violenter la population de la Terre. Et c'est pour ça que l'événement n'est pas encore arrivé. Et donc, lorsque l'actualité s'accélère, comme ces derniers temps, on peut assister, entre autres effets positifs, à des vagues de conscience, à des vagues de compassion, des vagues de participation. Je tiens à noter que j'ai été très étonné dans mon dernier groupe de méditation de voir arriver les gens. La salle était pleine à craquer. Il y avait 34 personnes, alors qu'il y en a habituellement une vingtaine. Et dans la salle de méditation, ce qu'on traite, c'est la conscience. Et pourquoi ces gens en grand nombre sont venus tout d'un coup concernés par le sujet de la conscience. Parce que l'actualité s'accélère et les vraies questions se posent. Et les vraies questions, c'est qui suis-je, où est-ce que je, vers où je me dirige, qu'est-ce que je veux vraiment. Il n'y a pas très longtemps, j'ai entendu sur la radio ici et maintenant une personne qui disait l'humain est un inconnu pour lui-même. Et l'humain, quand il arrive sur Terre, il est un inconnu de ses parents. Et j'avais jamais pensé à ça. Son père ne le connaît pas, sa mère ne le connaît pas. C'est une découverte. Et c'est une découverte de tous les jours, et c'est une découverte de toute la vie pour la personne elle-même. Et au final, c'est vrai que nous sommes un mystère de chaque jour. Nous sommes un mystère pour nous-mêmes, quant à notre nature qui est voilée, donc on ne peut que la supposer parce qu'on a des transmissions par au-delà du voile, mais nous sommes un mystère les uns pour les autres. Je crois te connaître, mais est-ce que je te connais vraiment? Non. Je ne te connais pas plus que tu te connais toi-même. Et c'est vrai pour chaque personne. Ça, je peux vivre avec une personne pendant 30 ans, et finalement, il y a un mystère quasi total sur qui elle est vraiment, qui elle est au-delà du social, hein, au-delà de ce qu'elle daigne montrer. Tout ce que je ressens personnellement est intraduisible, à part très très vaguement en mots, mais est éminemment mystérieux. Je ne peux pas ressentir pour toi, et tu ne peux pas me transmettre intégralement ton ressenti. Ça peut être que très approximatif. Voilà, et donc nous vivons dans un monde, j'ai l'impression, où le mystère règne en maître. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que nous croyons savoir, et en fait nous ne savons rien du tout. Et il y a beaucoup de choses que nous pensons savoir des autres, et en fait nous ne savons pas grand-chose des autres. Nous savons que ce qui se traduit en mots, et comment traduire un ressenti en mots, à part très approximativement. Si je dis c'est bon, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est bon pour toi? C'est comme si je dis cette assiette est rouge, qu'est-ce qui me dit que tu vois le rouge comme moi je le vois? Personne. Je ne peux pas être dans ton cerveau pour voir à la place de tes yeux. Voilà, donc la conscience, c'est aussi un grand mystère, et peut-être que dans des événements où tout est chamboulé, il y a quelque chose de central qui nous rassemble, c'est se connaître mieux, c'est avoir conscience de nous-mêmes, de qui nous sommes, un peu plus, sachant que cette conscience, elle est individuelle. Alors, il y a une conscience collective, hein, paraît-il. Il y a un inconscient aussi. Il semblerait que ce soit à peu près la même chose. Mais la conscience collective fait que si je vois cette bougie de cette manière, tu la vois aussi. Ou si je vois la lune, tu la vois aussi parce que tu as puisé ce symbole et cette image de l'inconscient collectif. Il y a quelque chose en tant qu'humanité qui nous relie comme un seul corps, qui s'appelle l'inconscient collectif. Les humites en parlent beaucoup, hein, sous la forme d'un corps cybernétique, hein, dans l'univers, une sorte de superordinateur géant avec des connexions dont nous serions les terminaisons finales avec nos cinq sens. Nous ramènerions des ressentis et puis ce super ordinateur cosmique les engrangerait en tant qu'expérience dans une mémoire collective, mais à une échelle dont nous n'avons pas idée. Voilà. Donc, petit bouleversement, grand bouleversement, et en même temps, saut dans la conscience, hein. Il y a des sauts. Il y a des sauts parce que l'ordre de valeur des choses tout d'un coup changent. Tout d'un coup, ça peut être heureux qui est la première des richesses, la première des valeurs. Quand le monde se bouleverse, certaines valeurs d'avant deviennent sans aucune valeur. Mais voilà, qu'est-ce que la vraie richesse, hein? Peut-être est-ce être pleinement conscient pour se diriger de soi-même vers un monde que je perçois comme étant apaisé, parce que je le perçois depuis une conscience apaisée. Hein, semblerait-il, depuis ma conscience que je construis le monde qui est autour de moi. Et donc j'ai simplement à faire ça, à affiner cette conscience tous les jours, tous les jours, tous les jours, de manière à être dans cet équilibre entre intérieur et extérieur que j'essaye sans arrêt de peaufiner. Et en même temps, on le fait avec le corps, et le corps est une machine avec un formidable équilibre. Cet après-midi, je pensais une femme met au monde un bébé, et ce bébé, s'il est une femme, c'est une poupée russe. Ça veut dire qu'il a tout ce qu'il faut pour remettre au monde un autre. Mais c'est fractal, c'est merveilleux, parce que les instruments qu'il a mis au monde, qu'ils l'ont mis au monde, sont déjà en lui. Hein, si c'est une femme, même si c'est un homme, il a aussi une partie des instruments. Et donc notre réalité humaine. Nous avons un outil extraordinairement complexe qui nous permet de faire des expériences que les êtres qui sont seulement des lumières, des consciences non incarnées, rêveraient de faire, enfin rêvent de faire, et il y a la queue au portillon pour s'incarner sur Terre. Nous avons tendance à nous plaindre de la brutalité du monde ou de sa violence ou de la difficulté de notre vie ou des passages difficiles. Mais de l'autre côté du voile, c'est la queue, la queue, la queue. Il y a des milliards et des milliards d'âmes qui attendent. Mais la Terre ne peut pas accueillir toutes les âmes qui demandent. Il faut qu'il y ait des départs pour que d'autres arrivent. Et puis nous sommes admirés. Nous sommes admirés parce que nous sommes des êtres divins, illimités, omniscients, omnipotents, qui ont accepté de limiter leur divinité pour vivre une expérience dans laquelle on va momentanément oublier tout ça pour retrouver la lumière à partir de rien, hein, si je peux résumer ça, à partir de beaucoup moins, sortir du labyrinthe sans aide extérieure. Et c'est à peu près ce qu'on fait. Bien sûr, il y a un petit peu de... C'est pas vraiment une aide. Ce que Cobra nous donne, ce que les maîtres ascensionnés nous donnent, ce sont des indices, des petits cailloux blancs sur la route du retour. Mais les pas, c'est nous qui les faisons. Et ça, c'est... Voilà, je voulais rebondir sur les bouleversements, les nœuds chaotiques, comme les Hathors les appellent, sont porteurs de sauts de conscience. Et voilà, il y a toujours, avec une nouvelle tragique, il y a toujours une nouvelle positive qui est associée. Ça fait un certain équilibre. J'ai parlé. Le monde change. Qui était moi? Même des petites choses.
En ce qui me concerne personnellement, bon, c'est Nicolas. Ça fait 2 mois que j'ai pu remarquer qu'au niveau du ressenti, il y a une évolution au niveau du ressenti tactile. C'est-à-dire que j'arrive à ressentir comme un champ visiblement autour un peu du corps. Avec d'autres parties du corps, j'arrive à sentir un champ autour d'une. Voilà, enfin, c'est comme s'il y avait une sorte de petite enveloppe. une enveloppe un peu de force magnétique, un peu électrostatique autour du corps, et que j'arrive à ressentir cette interaction. Bon, typiquement, un doigt qui se promène près de la paume de la main, ou les extrémités des doigts les uns en face des autres. Je sens comme une très légère pression ou vibration. Et ça, bon, avant, peut-être que c'était le cas aussi, mais j'avais pas fait attention. Mais là, je m'en suis rendu compte, en fait, depuis bientôt 2 mois. Et donc là, je commence à bien mieux voir. Enfin, ça devient assez facile maintenant de ressentir ça. Ça m'a pas l'air d'être l'autosuggestion. Hein. Bon, c'est une expérience que je dois continuer à creuser, hein, à approfondir, à explorer. Mais ça m'a pas l'air d'être de l'autosuggestion. Hein. J'ai quand même l'impression que c'est bien quelque chose de réel. Voilà.
Catherine, oui, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, Nicolas, pour moi, ces nouvelles expériences, acquisitions dont tu parles, que j'ai faites, que nous sommes nombreux à faire, c'est pas quelque chose autrefois qui était extérieur et puis qui tout d'un coup viendrait en plus ou qu'on acquérait parce que pour X raisons. Comme ça a été toujours dit, ça a toujours été là, c'est là, on ne le voyait pas. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais peut-être que je n'y prêtais pas attention avant. Et je pense que c'est exactement ça. Pour tout le monde. Enfin, c'est ma conviction de par mon expérience. Je crois que j'avais déjà partagé une fois cette histoire de voir les particules de lumière. En fait, moi, je me suis aperçue que c'est tout le temps là, oui, ce qu'on appelle le prana, le chi, les photons, bon, peu importe, et que donc, au niveau de la vision, on est habitué à regarder un obstacle, quelque chose qui bute dans le trajet de notre regard, par exemple la personne en face, le mur, un arbre, etc. Et entre les deux, c'est du vide, donc il n'y a rien, donc on n'arrête pas le regard sur cet entre-deux, parce que pour nous, il n'y a rien. Mais en fait, précisément, si on arrête le regard et qu'on se met à regarder le vide qu'il y a entre deux choses, franchement, mais je vous invite à faire l'expérience, vous allez voir qu'on voit. Alors après, on voit des petites particules de lumière, et la première réaction, c'est « oui, mais non, ça c'est parce que j'étais baissée, je me suis relevée, j'ai la tête qui tourne, ou c'est une illusion, ou j'ai mal aux yeux en ce moment, c'est parce que j'ai pas assez dormi », enfin on trouve plein de trucs, parce qu'on nous a appris, on nous a inculqué qu'il n'y avait rien à voir entre deux objets, deux masses, alors qu'en fait c'est ça, et plus on insiste, plus on s'aperçoit qu'il y a. Et enfin, vraiment, pour moi, c'est très très clair. Et donc, l'expérience que tu as fait, que tu as faite, dont tu parles, pour moi, c'est la même chose. Tout est là, tout existe déjà, mais on était éduqués à nier l'intangible et à ne donner crédit qu'à ce qui est tangible. Donc, du coup, on n'est pas exercé à le regarder. Donc, c'est ma compréhension de ça et mon expérience.
De toute façon, ce qui est certain, c'est que c'est pas dans la culture aujourd'hui, et c'est pas quelque chose qui est encouragé dans l'éducation de sortir d'une certaine vision très restrictive. Ça, c'est absolument certain. De ce côté-là, il n'y a pas photo. Par rapport à ce que tu dis, par rapport aux particules de lumière, alors bon, ça, en fait, ça depuis toujours, hein, dès que je vois un... En fait, c'est, pour moi, c'est lié à la vision, mais c'est pas... Enfin, en ce qui me concerne, parce que c'est assez compliqué, il y a beaucoup de choses, mais il y a une chose, en tout cas, qu'on voit tout le temps. C'est des sortes de fourmillements de points de couleurs diverses, et en plus qui sont même pas vraiment des couleurs de la gamme physique, mais qui sont une autre gamme de couleurs, en fait, sur une autre dimension, en quelque sorte sur une autre dimension. Et ces couleurs, enfin ces points de couleur, en fait, ils sont là tout le temps, mais les yeux fermés aussi, en fait. Donc, pour moi, ils sont pas forcément liés à la réalité extérieure. Ils sont là, mais c'est pas forcément lié à la réalité extérieure. Parce que les yeux fermés, en fait, c'est même les yeux fermés qu'on les voit mieux. On les voit bien sur une surface uniforme, parce que finalement, c'est un peu comme avoir les yeux fermés. Ils vont juste être teintés par la couleur de la surface uniforme qu'on va regarder. C'est-à-dire que ça va superposer à leur propre couleur. Bon, mais... Après, j'ai l'impression qu'en fait, si on regarde bien, en fait, tout ce qu'on voit, objectivement, en fait, est composé à partir de ces points de couleur, mais avec quelque chose de plus, comme s'ils avaient... Il y a une projection, quoi. On a projeté un cadre dessus, et ça a donné une existence... Enfin, je sais pas trop, ça, c'est quelque chose... Faut que je regarde de plus près, mais ça fait longtemps que je le dis, mais enfin bon. C'est vrai que c'est un peu abstrait tout ça. Bon, si quelqu'un veut dire quelque chose.
Je suis continue à votre discussion. Et ça m'a donné beaucoup de joie de découvrir un scientifique qui s'appelle Greg Braden. Et justement, c'est lui, il fait des recherches sur au niveau énergétique, spirituel, au-delà de atomes, au-delà de matière. Et que, en fait, aujourd'hui, et on peut aller au-delà de conscience au niveau de l'époque d'Einstein. Alors Einstein dit que le monde extérieur, l'univers extérieur, et on ne peut pas tellement toucher. C'est-à-dire que on peut pas influencer le monde. Voilà. Donc la Lune existe. Mais même je regarde pas, la Lune existe. Voilà, ça c'est Einstein. Mais d'autres, Max Planck, donc son collègue, complètement de même époque, qui est donc le père de science quantique, et lui il est complètement opposé. Donc c'est l'observateur, donc nous, qui est notre conscience, influence l'univers. Donc l'univers est imparfait. Et l'univers est en train de donc grandir. Mais nous, on participe de donc cette voilà, conscience universelle. Alors ça m'a donné un grand plaisir, de la joie de vivre. Et donc ça juste, je ne sais pas si je peux répondre à la question. C'est très 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 intéressant. Donc c'est maintenant on a fini. Donc l'ancienne théorie est finie. Einstein, c'est fini. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pense? Cette pensée, c'est des énergétiques qui influencent au monde. Donc ça, c'est très important.
Catherine, moi je voulais juste témoigner par rapport à la question, enfin pas la question... Les nouvelles du monde qui changent, voilà. Donc, moi, je voulais juste témoigner que mon monde change. Comme le monde est constitué de la multitude des micro-mondes que nous sommes, mon monde change beaucoup depuis début octobre, ou peut-être même fin septembre, je ne sais plus. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est en relation avec ce que dit Michiko, c'est que ce que dit Michiko, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps, que donc nous influençons notre vie avec nos pensées. Et je me suis beaucoup plus concentrée sur ce que je voulais. Et je suis rentrée plus dans le concret et j'ai lâché beaucoup plus la tête et tout ça. Et ça a été, c'est fou quoi, parce que ça a répondu, mais très très vite, très rapidement. Enfin, c'est pratiquement du jour au lendemain quoi. Il n'y a plus besoin d'attendre longtemps comme avant. Et là, ma vie est en cours de transformation rapide et extrêmement positive quoi. Voilà, je voulais donner ce témoignage.
Oui, c'est Michiko, je voudrais ajouter quelque chose parce que j'ai pensé, c'était pas complet que je voulais dire. Et nos pensées sont importantes, mais donc Bryden dit que l'énergie de chaque Lao, donc les idées, pensées, etc., mais la puissance, ça vient du cœur. Et du cœur qui rassemble là-haut les pensées et les émotions en bas. Et réunir, marier haut et bas. Et à partir de ça, ça devient de sentiments. Et sentiments du cœur qui stabilisent l'atome. C'est-à-dire que l'atome n'existe pas. Les choses matérielles n'existent pas. Hein. Tout est vibratoire. Et donc, c'est juste nous sommes notre croyance que ça existe, tout ça. Mais en fait, c'est du vibration du cœur qui transforme toutes les choses. Alors, vibration du cœur, pas uniquement les pensées. Pas uniquement les émotions, mais c'est le mariage des deux. Ça, c'est ça que le maître spirituel qui travaille pour aider pour les autres et transformer le monde. Donc voilà, moi j'ai pratiqué 10 ans dans le bouddhisme tibétain, mais je n'étais pas convaincue. Mais là, avec donc scientifique qui explique de cette énergie spirituelle comment ça fonctionne. Et c'est, donc voilà, c'est ça. Donc les deux est important, les pensées importantes, les émotions importantes. Il faut pas jeter tout ça. Donc c'est juste pour rassembler au niveau du cœur. De puissance du sentiment et ce sentiment qui crée le monde. Voilà, c'est ça que je suis contente que je peux pratiquer. Je peux pratiquer et pour aider les autres. Voilà.
Et puis on parle du cœur, on entend parfois les mots « l'intelligence du cœur ». Eh bien, figurez-vous que le cœur, il y a 40 000 neurones dans le cœur, ce qui fait que le cœur peut prendre certaines décisions sans passer par le mental, sans passer par le cerveau. Le cœur a un champ électromagnétique 5000 fois plus fort que le cerveau. Ce qui fait que c'est vraiment un élément central dans notre corps et dans notre évolution. On a un autre cerveau qui est dans le ventre, on l'appelle le deuxième cerveau. Mais le cœur a cette particularité qu'il envoie plus d'informations vers le cerveau qu'il n'en reçoit. Ça veut dire que, d'une certaine manière, le cœur peut chapeauter le cerveau. Le cerveau, il fait son boulot de décoder les images, les odeurs, les machins. mais le cœur, il va envoyer son ressenti. Hein. Il va envoyer ce qui est éminemment important pour nous en tant qu'être humain au cerveau. Et ça, c'est principalement du cœur vers le cerveau que ça se passe. Donc on en découvre tous les jours sur le cœur. Avant, c'était une pompe. Aujourd'hui, c'est un élément qui revient dans la spiritualité partout. Hein, on parle du cœur. Et c'était pas évident de faire la relation entre cet organe physique et ce centre de bonté, d'intelligence positive, de générosité qui est symbolisé par le cœur. Eh bien, il semblerait que nous ressentons avec le cœur. Hein, nous ressentons la bienveillance. C'est pas ressenti par le cerveau. Si tu veux parler, je te donne le micro.
Oui, il me semble, enfin c'est ouvert, c'est pas une affirmation complète, mais que quand on parle du cœur, on parle de la puissance du cœur, on parle du chakra du cœur, donc qui serait associé au thymus plutôt qu'à l'organe, et donc qui est vraiment localisé là, plutôt qu'à l'organe du cœur qui, lui, est plus à gauche. Quoi. Donc, j'en suis presque sûre, mais pas complètement. À confirmer. Quoi.
Je pense que dans la médecine chinoise, il y a deux méridiens du cœur. Donc, le méridien du cœur d'organe, et puis qui s'appelle méridien du maître du cœur. Voilà, c'est ça qui est plutôt correspond à ce qu'on a parlé du cœur, et je pense que c'est le maître du cœur.
C'est pas la même chose
non.
Que le cœur dans
l'organe. Voilà, je pense.
Voilà, et puis, déjà, savoir que le cœur a 40 000 neurones et qu'il peut prendre des décisions sans la tête, c'est déjà important. Hein. C'est déjà 40 000, c'est pas peu hein, au niveau intelligence, c'est déjà un réseau de neurones. Autre chose, moi j'écoute beaucoup Radio Essier maintenant, je l'écoute, elle est diffusée 24 heures sur 24 sur le net, un peu moins sur la bande FM, mais il y a des rediffusions le matin par exemple avant 14 heures d'anciennes émissions. Et récemment, j'ai allumé, je me réveille, j'allume ici et maintenant, j'entends des propos qui me scotchent. Quelqu'un de la trempe, si j'ose dire, de Christophe Alain, clairvoyant, et j'ai été complètement scotché à la radio par la justesse et par la clarté de ses propos. C'était la retransmission gratuite d'une conférence qui a eu lieu au Forum 104. Et l'intervenant s'appelle Franck Lopouvet, L-O-P-V-E-T. Et je me suis dit, waouh, quel dommage, je n'ai pas écouté ça depuis le début, c'est magnifique, magnifique. Et c'est magnifique parce que c'est une série de questions-réponses. Une personne dit moi j'ai vu ça, et la réponse arrive, waouh, clairvoyante. Et puis une personne dit je te dis rien, dis-moi ce que tu ressens à propos de moi. Et puis il la scotche aussi complètement avec des. Et puis il parle de la puissance que c'est d'être dans la nature. Et qu'il y a une énergie fondamentale dans la nature qui est vraiment très importante pour nous, et que c'est fondamental d'être dans la forêt ou pour recueillir ces énergies. Et donc, comme j'ai mis l'intention forte de l'écouter, le lendemain matin, j'allume ma radio, et puis il était à nouveau là, mais c'était une autre émission. Il était invité par la radio Ici et Maintenant, Et là, ni une ni deux, j'ai pris mon enregistreur et j'ai dit, ça, c'est de l'or en barre, c'est de l'or sonore. Et j'ai enregistré le truc. Et j'ai commencé à l'écouter, à le réécouter, à le réécouter, tellement c'est dense. J'ai pris des notes et il parle de tous les sujets avec une clarté extraordinaire. Frank Lobvay. Donc je l'ai enregistré sur ma Freebox. Et donc voilà, c'est disponible à l'achat sur Radio ici et maintenant. Il y a un site de MP3, ça coûte 3,50 €, ce qui est vraiment rien. Alors, pourquoi je dis ça en deux mots? C'est parce que, pour moi, il y a une explosion de personnes comme ça qui se révèlent à l'humanité comme étant avec une conscience grandissante. Si vous entendez Christophe Alain, il parle de la conscience des galaxies, de la conscience des planètes, mais d'où il sort tout ça, hein? D'une connaissance universelle. Non, Christophe Alain, c'est un clairvoyant. C'est un clairvoyant qui a regardé un point au plafond pendant 4 heures par jour et pendant 6 mois. Et il s'est complètement éveillé avec ça. Il est rentré dans des expériences complètement très, très mystiques avec ça. Et puis, apparemment, Frank Lobvay a été dans les stages de Christophe Alain. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du réveil de la réaction en chaîne. Moi, j'appelle ça de la réaction en chaîne. Parce qu'il le dit, Frank Lobvay, il dit, je suis comme vous. J'ai un ego, j'ai un orgueil, j'ai ce que je fais, vous pouvez le faire. Simplement, décidez parce que vous êtes créateur. Et là, je me suis dit, ah bon, tiens, je suis créateur. Super. Alors, je vais faire le test. Je me dis, je suis assis toute la journée devant l'ordinateur quand j'ai des trucs à envoyer, des programmes et tout ça, et j'ai les pieds qui gèlent. Et je mets des plaies, des chaussettes triples, mais ça gèle. Hein. J'ai demandé à mes pieds qu'est-ce qu'ils avaient à me dire. Parce que c'est un peu comme ça qu'il résonne, lui. Et immédiatement, j'ai entendu « bouge ». Immédiatement, j'ai entendu « bouge ». Et c'était pas analytique, c'était pas mon cerveau qui a répondu. C'est-à-dire que tant qu'on croit qu'on ne sait pas, en effet, on fait l'expérience qu'on ne sait pas. Mais donc, et c'est l'enregistrement qui a révélé ça chez moi, qui a révélé, tiens, c'est vrai, pourquoi j'exploite pas ma capacité de création ? Et cette capacité de création, c'est un développement de la conscience. Il est allé chez Christophe Alain, il a réalisé que lui aussi était créateur, et maintenant il parle aux gens, il les bluffe un par un. Hein. Il parle comme un courant miracle au niveau de la non-dualité. Hein. Il parle de... ça résonne à 200% pour moi. Hein. Donc... Alors, pour moi, il y a c'est comme des champignons après la pluie. Hein. Il y a un être s'éveille, éveille 10 êtres, qui éveille 100 êtres, et puis on est dans un truc en spirale maintenant, qui va de manière exponentielle, parce qu'on ne peut pas, grandir en conscience tout seul. C'est jamais un phénomène solitaire, parce que le monde entier change autour de nous, et nous modifions aussi le monde, la conscience du monde. Donc pour moi, c'est quand même extrêmement positif que des gens de la trempe de Christophe Alain, Frank Lobvay, maintenant, puissent donner leur message. Associé à ça, il y a cette nouvelle importante par rapport à la diffusion de l'information. Internet a révolutionné les médias, parce que avant on avait France Soir et Le Figaro, etc., comme seule source d'information, et la télé. Mais la télé du futur, celle qui est préparée maintenant, elle sera connectée à Internet. Tous les nouveaux postes seront connectés à Internet. tous les nouveaux postes fonctionneront en direct. Il n'y aura plus de réseau hertzien, réseau TNT. Il n'y aura plus ça. C'est fini. On ne le sait pas, mais c'est ce qui se passe dans les laboratoires. Et ça veut dire que la télé qui enseigne la manière de penser, c'est terminé aussi. Puisque Internet fait son incursion dans la télé, bah, il va y avoir la chaîne libre que je veux sur la télé. J'aurai la chaîne Ici et Maintenant ou n'importe quelle autre chaîne. N'importe quelle autre chaîne sur la télévision qui dira la vérité, puisque ça vient d'Internet. Voilà, pour moi, la révolution consciente, elle est en marche. Hein. Elle est là, pas après pas, chaque jour, à travers des petites choses. Le financement collaboratif commence à prendre une ampleur sans précédent. Ça aussi, c'est pris en compte par les banques traditionnelles maintenant. Hein, le crowdfunding occupe un pourcentage énorme maintenant. Il y a des sociétés qui font appel à Internet pour financer les entreprises, qui font appel aux particuliers par l'intermédiaire d'Internet pour faire des prêts professionnels aux entreprises. Et ça va à toute vitesse par rapport au Sofinco et tout ça. C'est-à-dire que toutes les structures pyramidales de notre société, la pyramide commence à s'aplatir. Et maintenant, le peuple a son mot à dire dans beaucoup plus de... Donc ça, c'est énorme. Parce que quel est le mal, le frein absolu à l'évolution de la conscience? C'est que les décisions sont prises en haut et puis imposées en bas. Hein. Mais lorsque c'est le peuple qui décide, eh ben, la conscience, c'est ce que le peuple veut. Enfin, la liberté, c'est ce que le peuple veut. Le peuple ne veut pas élire des gens qui décident des choses dont il n'a pas envie. Hein. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, lorsque c'est horizontal, on a beaucoup plus de chances que ce soit représentatif vraiment. Parce que
prends la parole.
Je vais te la donner. Je termine. Cette démocratie, pour beaucoup, elle n'est pas représentative vraiment du peuple.
Oui. Alors, moi, je ne sais plus où j'en suis parce que je perds au fur et à mesure. Alors, tout à l'heure, tu avais parlé de l'Opwet. Alors, je voulais juste te dire que, en fait, tu n'es pas obligé de l'acheter sur le site parce que, ici et maintenant, ils ont un site où ils mettent leurs vidéos en ligne. Pas toutes, hein. Mais l'Opwet, je sais qu'il y en a au moins une. Mmh. Au moins une. Mais peut-être qu'ils ont mis celle de l'autre jour, là, parce que je l'avais entendu aussi. Peut-être qu'ils l'ont rajouté, j'ai pas vérifié. Donc on peut les trouver directement comme ça sur je sais pas si vous connaissez peut-être. C'est pas RIMSAFE, c'est RIM915.fr, un truc comme ça. Enfin, faut chercher ici et maintenant. Il y a un site où ils mettent leurs vidéos. Et on trouve. L'Opwet, alors
le prénom,
c'est Franck. Et le nom, c'est LOP. VET, je crois. À moins que ce soit U.
Love, oui, ça c'est
ça.
Sûr.
Voilà. Voilà, c'est ouais. Bah après, bon, moi je voulais réagir de temps en temps, mais bon. par exemple, quand tu dis le peuple, c'est au peuple de décider, je serais pas aussi. Je trouve que c'est un peu simpliste. C'est-à-dire, si tu fais le suffrage universel par exemple, pour toutes les questions, ça va pas marcher. Ça marchera pas mieux. Parce que le problème, c'est pas tellement que les gens ils décident, c'est que les gens ils se concertent, qu'ils communiquent, qu'ils réfléchissent ensemble et qu'ils prennent une décision mûrement réfléchie, etc. Après avoir envisagé la chose sous tous ses angles. C'est pas tellement le fait de hop on décide parce qu'on est le peuple. Enfin voilà, je voulais juste apporter ce petit élément. Tiens, je te passe le micro.
Oui, moi c'est pour partager une information. Que je n'ai pas plus creusé que ça, parce que je l'ai eu ce matin, mais ça m'a interpellée. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la démosophie. Donc il y a un site qui s'appelle demosophie.com, hein, de démocratie et de Sophie, donc voilà. Et donc il y a une petite vidéo là que j'ai juste vue ce matin de 14 minutes. La personne qui parle, Eric Libre Penseur, c'est son nom Facebook. Un monsieur d'une soixantaine d'années qui a l'air très sérieux. En tout cas, le site est déjà traduit en 4 langues. Donc, propose un rassemblement en place de la Concorde pour le 14 juillet 2015 et ensuite d'aller à l'Élysée, de sortir tout le monde et de mettre un gouvernement provisoire à la place. Et en fait, il propose de faire l'Islande. C'est ça, l'Islande, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Mais alors là, je le dis comme ça d'une façon un peu marrante. C'est loin d'être juste léger comme ça. La vidéo que j'ai vue de 15 minutes est extraite d'un film entier qui dure plus d'une heure. Il y a un site complet avec le truc bien réfléchi, des liens de partout, déjà traduit en 4 langues, anglais, français, espagnol, italien. Et ça m'a pas l'air du tout de venir de Lulu Berlu du coin. Hein. Ça a l'air d'être un truc très réfléchi. Donc, il propose un gouvernement provisoire qui serait constitué de 200 à 300 personnes, puisqu'il dit qu'actuellement, il y a 1500 personnes au gouvernement et que c'est tout à fait inutile, qu'on peut faire mieux avec seulement 200 ou 300. Et il dit, par exemple, s'il y a 200 personnes, il y en aurait 100 qui seraient tirés au sort parmi les citoyens lambda volontaires, évidemment, et les 100 autres seraient pris parmi les leaders des sites dissidents qui ont révélé Bilderberg, qui ont révélé la supercherie financière, bon, etc., etc., qui seraient également pris parmi des financiers également dissidents ou qui ont révélé beaucoup de dossiers, et aussi des gens qui seraient représentatifs des différentes corporations, des différents secteurs professionnels, etc. Donc ça, ce serait la moitié du gouvernement, l'autre moitié, les citoyens tirés au sort. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il explique en 14 minutes, extrait d'un film long-métrage, lequel est inséré dans un site complet traduit en 4 langues. Donc, c'est-à-dire que là, je vous donne 1,5% de... voilà. C'est juste pour vous dire que c'est accrocheur pour le moment, mais il y a quelque chose derrière, hein, dedans. Et il y a un réel appel à les places de la Concorde le 14 juillet prochain pour virer tout le monde de l'Élysée. Donc... parce que ce qu'il dit au départ, c'est que le peuple a le droit de faire ça. Dans une démocratie, le peuple a le droit de faire ça, c'est-à-dire qu'il élit des personnes. Si les personnes ne remplissent pas leur mandat, dégagez. Et s'ils ne dégagent pas par les votes et tout ça, eh ben on va les dégager gentiment, comme ils ont fait en Islande. Enfin voilà, alors voilà. Donc maintenant, s'il vous plaît, j'invite à ce qu'on ne donne pas d'avis sur ce que je viens de dire maintenant, sauf si vous avez étudié le site. Maintenant, là, si ce dont je parle, vous avez déjà vu le film entier, étudié le site, vos avis sont les bienvenus. Sinon, je propose qu'on aille chacun étudier. Non, mais parce que c'est, là, moi, je donne pas un avis, je transmets juste une banderole, une annonce, vous comprenez ? Alors, on va pas débattre sans argumentation.
Je voulais pas donner d'avis, c'était juste par rapport, parce que tu cites l'Islande, et pour dire que...
Ça, c'est moi, c'est pas
une... D'accord, ah oui, parce que c'est... Parce que non, il y a, d'après ce que j'ai compris, en fait, on a l'impression qu'en Islande, il s'est passé quelque chose d'assez rare, enfin d'assez exemplaire, mais en fait, il paraît qu'en fait, finalement, il s'est pas passé grand-chose. Et que... C'est-à-dire que, en fait... que finalement, les citoyens vont devoir quand même rembourser les financiers qui alors, on croyait qu'en fait, ils n'allaient plus les rembourser, mais en fait, si, finalement, ils doivent quand même les rembourser. Et finalement, ils en sont restés un peu là. Je crois que je ne sais pas si ça va réévoluer. Mais il me semble que ça n'a pas eu l'effet qu'on... Sauf qu'on en a beaucoup parlé pendant un moment, mais en fait, finalement, le résultat, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé, d'après ce que j'ai compris. À moins que tu aies quelque chose de nouveau...
En tout cas, le seul ce que j'ai sur l'Islande, moi je trouve que c'est déjà assez énorme, parce que j'imagine pas ça en France, c'est que le gouvernement provisoire était constitué à sa tête d'un leader d'un groupe de rock dissident islandais, hein, quand même. Hein. Donc un groupe de punk, Non, mais je vous assure, hein. Et donc ça j'ai fait vraiment la Gaëtan, j'ai vu le truc, c'était là, je me suis dit non d'un chien, c'est pas vrai. Donc le leader d'un groupe de punk connu en Islande et certainement internationalement était à la tête du gouvernement. Il avait choisi d'autres membres dans son gouvernement. Il y avait un grand paquet d'artistes célèbres. Et ils ont fait des choses extraordinaires. Ils ont quand même rééquilibré tout le budget de la ville. Et ils ont fait sur le plan écologique des tâches. Ils ont eu une véritable action. Et ensuite, ce chef de gouvernement provisoire, donc ex-leader d'un groupe punk, a dit, bah, maintenant, moi, j'ai fini mon mandat. Le pouvoir, je m'en fous. C'était pas mon truc. Donc maintenant, je m'en vais. Donc, ce que je trouve très, très sain. Donc, après, je ne connais pas la suite de l'histoire. Non, ça, c'était un homme. Mais avant, je ne sais pas. Mais donc, voilà, je trouve que ça, c'est énorme. Ce n'est pas rien. C'est pas rien. Tu vois ? Voilà, donc, même s'ils ont déjà, ils sont déjà allés à l'Assemblée nationale, ils avaient viré tout le monde, ils ont mis un gouvernement provisoire qui n'avait pas abouti, ils en ont mis un deuxième, il y a eu celui-là, etc. Même si maintenant tout n'est pas réglé et que ça retombe, moi je pense que c'est un petit peu le processus du vivant. Regardez, si on cherche un appartement à acheter, on va en trouver un, puis ça ne plaît pas, et puis un autre, et puis ça ne va pas, et puis finalement on en achète un, on y reste un peu, puis ça ne convient plus, on change. Quand on cherche un travail, c'est pareil. On va dans un travail et puis on dit, tiens, celui-là, ça va être bien. Puis finalement, ça ne va pas au bout d'un moment. Alors, on change. Je veux dire, c'est toujours, on pose des actions. Il y a des résultats qui ne sont pas forcément ceux escomptés ou pas totalement, ou même un tout petit peu. Et c'est le processus de l'évolution, quoi. Ça ne veut pas dire que c'est un échec. Je trouve qu'on ne peut pas dire, il n'y a rien eu. Il y a eu quelque chose qui s'est passé et c'est quand même énorme. Maintenant, ils n'ont pas tout réglé. Donc, voilà.
Je crois que moi, je ne suis pas du tout au courant, un petit peu, juste un petit peu, mais ce qui est énorme pour l'Irlande, c'est qu'ils sont sortis d'une boîte noire où nous, donc la France, on est dedans. N'est-ce pas? Donc voilà, c'est quand même énorme là, le changement.
Enfin, bon, c'est quelque chose que j'ai pas bien revu, mais d'après ce que j'avais entendu de quelqu'un qui avait un peu sondé le lieu, qui avait parlé avec les personnes pour voir, qui avait un peu étudié la situation. En fait, c'était Clara de Ici et Maintenant. Bon, elle a fait une émission là-dessus, une fois sur l'Islande. Et j'ai trouvé assez convaincante. Et d'après ce qu'elle expliquait, c'est que finalement, bah, que tout revient pareil et que les gens, d'ailleurs, en fait, ils sont finalement un peu indifférents à tout ce qui s'est passé. Il me semble que c'est ce qu'elle a dit, en gros. Et moi, ce que je me suis dit, en fait, alors je me suis dit, tiens, comment se fait-il dire que les journalistes, ils en aient parlé même? Parce que, bon, au début, il y avait quelque chose, ça avait l'air pas mal, mais c'est vrai qu'on en a quand même pas mal parlé, alors que c'est plutôt quelque chose, on va dire, d'un peu de subversif. Je me suis dit, ils ont peut-être beaucoup parlé parce que, justement, c'était intéressant de parler de quelque chose qui ne marchait pas. Et après, ne pas dire que ça ne marchait pas. Dire, en gros, de mettre dans l'idée que, ça y est, voyez, l'Islande, ils ont fait la révolution, puis on n'en parle plus. Et donc, inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se dit, bah, quand on fera la révolution, bah, ce sera comme en Islande aujourd'hui. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en Islande, finalement, ça n'a pas changé tant que ça. Donc, quelque part, ça veut dire que, finalement, révolution, bah, c'est bien gentil, mais ça ne sert à rien. C'est le message qui est peut-être subliminal qu'ils ont fait passer les journalistes, en parlant beaucoup, enfin, pas beaucoup, mais quand même un minimum, puis après, n'en parlant plus du tout, enfin, je sais pas, moi, c'est un peu comme ça que je vois le truc, enfin, voilà, enfin, je crois que, d'après ce que j'ai compris, que c'est un peu au point mort, quoi, pour l'instant, hein.
Un mot, je rejoins Cathy et je rajoute que nous assistons à des mouvements de révolution qui sont confisqués dans le monde. Hein, il y a des révolutions arabes qui ont été confisquées, la révolution islandaise certainement aussi, mais au-delà de cette confiscation, il y a ce désir de changement qui est pour moi plus important que ce qui se passe réellement dans les faits. Parce que ça a été, dans les deux, trois dernières années, ça a été les années où il y a eu vraiment l'expression de assez. Alors, bien sûr, dans tous les pays où il y a eu une révolution, hein, comme dans les révolutions arabes, en Islande, le peuple a dit assez. Ça, que ça ait fonctionné ou pas, c'est compréhensible que ça veuille être étouffé, puisque le pouvoir, c'est tellement grisant que on ne va pas le laisser partir comme ça. Hein. C'est la petite drogue quotidienne de nos élites. Mais pour moi, que le peuple dise assez, c'est un saut en conscience, parce que l'étape d'avant, c'est on dort tranquillement et on se la ferme. Donc c'est plus important. Alors ce sont des étapes. Aujourd'hui, on dit assez et puis on est étouffé, mais il peut y avoir d'autres étapes où il y a plus de monde qui dit assez, où on dit assez différemment, où, comme tu dis, on va à l'Élysée et puis on confisque tout.
Oui, j'ai mon ticket. Juste pour finir là-dessus, oui, parce que je pense que réellement, c'est complètement lié à l'évolution de notre conscience. Et en fait, ça n'évolue pas, il me semble, selon une trajectoire lisse et continue, mais c'est fait d'un coup. Et pendant qu'on parlait, là, il m'est venu l'image du bébé. En fait, le bébé, quand il naît, il a deux jambes. Pour autant, il ne marche pas. C'est même pas seulement parce qu'il ne sait pas se servir de ses jambes parce qu'elles ne sont pas musclées, c'est qu'il n'a même pas conscience d'avoir des jambes. Ensuite, à mesure que sa conscience s'expanse, il va avoir conscience d'avoir des jambes, il va voir qu'il y a des jambes, il ne sait même pas que ce sont les siennes. Puis il va comprendre que ce sont les siennes et qu'elles peuvent bouger. Et ensuite, il va comprendre qu'il peut s'asseoir. Et il va voir les autres marcher, il aura envie de se lever. Mais il ne va même pas y penser au début. Et à un moment donné, il va se dire, mais j'ai des jambes, les autres y marchent, et pourquoi pas moi? Il va essayer, il va se ramasser. Et vous avez vu un bébé, le nombre de fois qu'il casse la figure avant de pouvoir marcher. Et je pense que c'est comme le monde entier, l'humanité était comme un bébé qui savait pas qu'elle avait deux bras, deux jambes. Tout d'un coup, ah tiens, j'ai les bras, j'ai les jambes, à quoi ça sert? Ah tiens, je pourrais essayer. Ah ben j'essaye, mais j'y arrive pas, ça marche pas ton truc. Et en fait, on est là-dessus. Enfin, voilà. Je vois ça comme ça.
Bon, je pensais... suite à la déflagration là, qui s'est produite suite aux actes dits terroristes par le gouvernement, même si c'est lui qui les a, enfin, peut-être pas lui, mais des puissances derrière qui les ont peut-être créés, je ne sais pas, c'est un grand point d'interrogation pour moi. L'autre jour, j'ai été touchée par le fait que Najet Vallaud-Belkacem a invité les anciens ministres de l'éducation pour réfléchir à, je sais plus, par rapport à la situation qui était en cours. Et ça m'a quand même touchée, parce que je me suis dit, avant ça ne se voyait jamais ça. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours très jaloux de leur nouveau petit pouvoir, puisqu'on sait bien que les ministres sont remplacés à une vitesse très grande, surtout dans l'éducation nationale. Et voilà, je sais plus très bien quelle est la raison pour laquelle ils se sont réunis. Ils devaient réfléchir probablement à comment parler de ça auprès des enfants. Je sais plus. Oui, il y a eu des ados qui ont refusé la minute de silence et qui, bon voilà, bref. En tout cas, c'est pour moi un signe qu'il se passe quand même quelque chose, malgré toutes les manipulations qu'on nous dit qu'il y a, enfin que certains journaux alternatifs disent qu'il y a eu jusqu'à Monsieur Le Pen. Voilà, il y a quand même des choses. Et moi, je sais que je me suis sentie un peu mal après. Enfin, c'est dans le sens il y a quelque chose qui bouge. J'ai participé à la marche des 4 millions de personnes. Enfin, en France, on était 4 millions. Parce qu'à l'époque, je me suis dit non, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a eu une manipulation, mais j'y vais quand même. J'avais vraiment envie d'y aller. Et puis après, je me suis sentie mal parce que j'ai été sur Internet et puis j'ai lu plein de choses qui disaient que c'était encore un false flag, tout ça. Bref, ces actes de fusillade et tout. Et donc, je me suis sentie, ça m'a complètement confusée, mis la tête, dévissé la tête encore une fois. Je savais plus trop quoi penser, bien que je pense que c'est la version, malheureusement, du false flag qui doit être juste, à mon avis. À mon avis, parce que c'est certainement une occasion pour le gouvernement actuel qui était en chute immense de sympathie, peut-être de se reconstituer, puis ça fait diversion, et puis on peut aussi mieux contrôler les masses après, c'est peut-être tout ça. Mais malgré tout, l'idée que le fait qu'il y ait eu autant de gens qui étaient dans la rue, et qui ont dit non, même si ils savent pas la vérité pour une part, si cette vérité sait qu'il y a eu une manipulation, ce qui moi m'a intéressé, c'est que les gens étaient ensemble au-delà des clivages habituels. Et ça m'a, j'ai senti que c'était important. Alors peut-être que je me leurre. Je pense que ça c'était très important. Voilà.
Moi, je vais dans ton sens. Donc, moi, j'avais pas de point d'interrogation. Pour moi, dès le départ, c'était un false flag. False flag, ça veut dire que pour moi, c'est un véritable attentat avec des véritables morts, mais que c'est pas une histoire de deux jeunes islamistes fous de Dieu qui ont fait ça. Voilà. Pour moi, c'était dès le départ ça. Mais par contre, je suis allée aussi au rassemblement et ça a été très intéressant ce qui s'est passé sur le plan émotionnel parce que au début, j'étais partie pour ne pas y aller et mes deux fils y allaient. Et on a presque eu un conflit et également par rapport à des posts que j'avais mis sur Facebook, mon neveu m'a agressé, etc. Et du coup, je me suis dit là, il y a un truc qui va pas parce que moi qui cherche l'unité, là, je suis en train de générer de la division. En tout cas de la canaliser et de la rediffuser. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, mes fils sont au courant de la cabale et tout ça. Hein. Donc, mais eux, ils m'ont dit, nous, on n'y va pas pour ça. Nous, on y va pour affirmer notre envie de paix, notre envie d'unité, notre désir de liberté, etc. C'est ça qu'on va dire. Et en fait, il y avait des cortèges parallèles. Hein. Il n'y avait pas que le cortège... Parce que les journaux ont surtout retracé la descente du boulevard Voltaire avec le cortège officiel. Mais en fait, il y avait des cortèges parallèles pour les gens qui n'avaient pas envie d'être derrière. C'est celui que nous avons emprunté. Alors, donc, moi, je voudrais dire, d'une part, que j'ai ressenti une énergie de sérénité et d'amour dans ce rassemblement qui était vraiment puissant. Parce que depuis ma jeunesse, j'ai souvent participé à des manifestations et c'était pas du tout pareil. C'était très différent de tout ce que j'ai pu vivre. Et là, il y avait vraiment, je l'ai senti. C'était très, 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 très fort. Et je me suis dit, nous qui nous réunissons pour méditer, pour générer des ondes positives sur la Terre, là, il y en a 4 millions qui le font. Ils sont peut-être pas tous là-dedans, mais il y avait une majorité parce que c'était vraiment, vraiment ce que j'ai senti. Je me suis dit, c'est puissant. Peu importe qu'il y ait Netanyahou, Abbas et Valls dans le truc. Et en plus de ça, ce rassemblement n'a pas été lancé au départ de l'action. Ce n'est pas une idée de Valls. Il a récupéré une idée des citoyens. C'est-à-dire qu'il faut savoir que le jour des attentats, place de la République, tout de suite, quelques heures après, mon fils me téléphone et me dit « Oh, tu sais pas, place de la République, il y a des gens partout avec des bougies, assis, debout, ils sont en paix, ils sont drôlement, je ne sais plus comment il me dit, voilà, en sérénité, très calme, très très aligné, etc. » Bon, donc du coup, je pense que ça a dû, c'était pas attendu comme réaction du peuple, tout de suite quelques heures après les attentats. Et du coup, ça s'est passé autrement. Donc voilà, c'était pour. Donc moi, je suis persuadée que c'est un false flag et je suis très heureuse d'avoir participé au rassemblement. Voilà, c'était pour dire ça.
Et puis, dans ce chaos apparent qui a suivi ces événements, il y a quelque chose quand même que j'ai lu qui me paraissait super intéressant. C'est que. Soudainement, les mots « liberté » et « unité » ont envahi la presse. On a eu une diffusion incroyable de ces mots. Et ces mots portent des concepts en eux et qui se sont répandues à grande échelle. Donc il y a une sorte d'effet de bord comme ça. Quand on dit, quand même le président de la République dit unité, la France est unie, au niveau subliminal, on parle de notre unité profonde. Quand on dit liberté, on parle de notre liberté profonde, même si c'est la liberté d'expression. Quand on parle de solidarité, quand on parle de fraternité, dans ces moments-là, on se réfère à des valeurs profondes. Et ces messages-là, pour moi, c'est ces valeurs-là qui étaient dans la rue. Hein, lorsque ça, même si il y a pu y avoir des désirs de récupération ailleurs.
Il y a aussi un truc que, alors moi qui écoutais pas trop la télé, enfin de façon trop rapprochée là, j'étais pas bien, j'étais malade pour plusieurs raisons chez moi et j'ai pas mal écouté la télévision, regardé et écouté. Et il y a eu quand même un truc qui m'a frappé, que j'aurais, je pense, pas pu entendre avant, ou que nous n'aurions pas pu entendre, c'est que je crois que c'était lors de la soirée pour Charlie, mais je suis pas sûre que ce soit celle-là, c'était peut-être un autre soir, il y avait un type qui était dans les nuls, là, Carl Zéro. Il y avait ce polémiste là, puis il y avait d'autres personnes, et le sujet c'était la liberté d'expression. Est-ce que la liberté d'expression en gros est vraiment réelle dans la presse et tout? Alors il y en avait qui, il me semble, qui disaient oui, puis il y a Carl Zéro qui a quand même dit, ça c'est un truc que j'avais jamais entendu hein, à la télé, c'est pas vrai, il n'y a pas vraiment une réelle liberté d'expression. Et il a dit, je sais pas s'il a dit vous savez bien, mais il a dit les journalistes, hein, quand ils font un papier, c'est relu de toute façon, et ils peuvent pas écrire que ce qu'ils veulent. Et ça m'a vraiment intéressée, parce que c'est des choses qu'on nous disait pas, même si moi je le sais depuis longtemps, mais enfin depuis un moment. Mais ça m'a intéressée. Il y a d'autres choses qui sont en train de se passer, j'ai l'impression, sur Antenne 2, il me semble.
Et Carl Zéro.
Oui, il y avait Carl Zéro, puis il y avait d'autres personnes.
Il y avait.
C'était il y a 3-4 jours là. Il se passe des choses quand même. Il se passe des choses. Et puis je voulais aussi dire que ce à quoi tu as fait référence là, la vidéo de Greg Braden, je crois que c'est La Divine Matrice, c'est ça ?
Oui,
ok, extraordinaire. Je ne sais pas, ceux qui ne l'ont pas écouté, je vous propose de l'écouter. Elle dure 4 heures, elle est excessivement longue. Mais elle est. Moi, j'ai pris 2 heures de notes. Je l'ai écouté en 3 fois. Il est très clair. C'est un grand pédagogue, ce type. Il a un talent inouï pour expliquer les choses. C'est pour les gens comme moi qui ne sont pas scientifiques de formation, donc un peu ignardes, c'est vachement bien.
Je voudrais partager une information qui me paraît importante et j'allais oublier. Toujours suite à ces posts, donc c'est une invitation à être, avoir de la réserve en fait par rapport aux posts qu'on poste. Parce que moi, il m'est arrivé justement cette semaine deux mésaventures, enfin une mésaventure, et puis ensuite ça a été confirmé. Grâce à Nicolas, le post que tu m'as mis sur Gordon Duff, voilà. Gordon Duff, c'est tout le monde voit qui c'est ici. Gordon Duff, c'est un vétéran de l'armée américaine qui était aussi dans la diplomatie et l'intelligence. Et qui a créé avec d'autres vétérans de l'armée un collectif qui s'appelle Veterans Today, les vétérans aujourd'hui, et qui est donc à l'origine ils ont dépoté pas mal de dossiers, et notamment ils sont intervenus lors de la conférence de Damas. Il y a eu une conférence le 1er décembre 2014 qui était une conférence antiterroriste avec des personnages éminents de divers pays, et notamment des pays du Moyen-Orient. Et donc j'avais posté cette vidéo qui me paraît être très importante à regarder, parce qu'on le voit, il est pris à partie par un Français d'ailleurs qui lui dit, mais vous les Américains, en fait vous n'avez rien gagné du tout, rien aidé du tout, même à la dernière guerre, c'est pas grâce à vous, c'est grâce aux Russes, etc. Bon, ce qui est vrai. Et donc là, on voit ce monsieur Gordon Duff, qui dit « Oui, mais vous ne savez pas tout, voilà la réalité ». En fait, bref, il explique la cabale, il explique qu'il y a une organisation internationale du crime. Il explique tout ça à tous ces éminents personnages, autant de sénateurs, d'ambassadeurs, de ministres, de gens comme ça. Voilà, donc ça, je l'ai posté. Oui, oui, et il est filmé. Donc là, c'est pas quelqu'un, un journaliste qui dit que, ou quelqu'un qui pense que. On voit la conférence, on voit Gordon Duff qui le dit. Donc, tout le monde peut le vérifier. Donc, j'ai posté ça parce que ça me paraissait important. Et en dessous, donc Nicolas, ici présent, me dit « Oui, mais regarde, Gordon Duff, il a aussi dit ça. » Et là, il me met un post qui était tiré de, malheureusement, The Event Chronicle.
Qui... Ça venait de...
Voilà. Veterans Today. Et que, alors, c'est-à-dire qu'on l'a trouvé sur The Event Chronicle, hein, le journal qui nous a été conseillé par Cobra, mais qui n'est pas... Oui, c'est lui qui nous l'avait... Enfin, moi, c'est depuis Cobra que je connais The Event Chronicle. Il nous l'avait conseillé pour certains articles. Voilà, bah, après, ce n'est pas son journal, mais il nous l'avait conseillé. Et The Event Chronicle a repris un article de Veterans Today qui raconte malheureusement une énorme ânerie au niveau des attentats. Puisqu'il dit que les attentats sont de Paris, l'attentat de Paris est un ridicule false flag. Et la preuve, il se base sur la preuve que la rue dans laquelle la voiture a été abandonnée n'existe pas à Paris. Voilà, donc Véronique est bien placée pour savoir qu'elle existe. Oui. Oui, mais c'est cette rue-là. Oui, celle où il y a le flic abattu, voilà. Et je vais te donner le micro après. Donc, Nicolas me dit, ben moi, je l'ai trouvé avec Google Earth. Donc, il me met le code, voilà. Je suis allée vérifier moi-même. Et effectivement, je l'ai trouvé aussi. Et d'autres, voilà. Et on a tous trouvé la rue qui habite dans Paris. Je vais te donner parce que j'ai encore un autre truc à dire. Mais Véronique, parce que Véronique habite à côté aussi, donc elle peut témoigner que cette rue existe. Voilà. Donc c'est juste pour dire, elle va vous faire le témoignage elle-même. C'est juste pour dire que suite à ça, je me suis dit zut de zut de zut, parce que là, Gordon Duff, qui est pour les dissidents du monde entier, je veux dire une pointure. Il poste une information, elle fait le tour du monde en 24 heures. La preuve, c'est que Michiko, après je vous en dire d'autres, mais elle l'avait vu aussi. Et, non, c'est même elle. D'abord, elle me dit, oui, j'ai des amis au Japon qui me disent que c'est pas vrai, la rue n'existe pas, l'attentat de Paris n'existe pas. Je dis, mais comment ça? Et donc voilà. Et après, tu m'as posté ça. Donc je trouvais ça très embêtant qu'une personne de cette pointure-là. Alors, il a fait son article, même pas 24 heures après les attentats de Paris. Hein. 20 heures, je crois que ça faisait quelque chose comme ça, après. Donc, je veux dire, là, c'est et encore, j'ai pas calculé le décalage horaire. Donc, c'est encore, voilà. Donc là, je trouve que ça va vraiment terrible, très vite, pour diffuser une information dissidente fausse comme ça. Et je trouve ça encore plus malheureux que ce soit relayé le lendemain par The Event Chronicle. Ça, je me suis dit... Zut, zut. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les infos de Gordon Duff sont pas bonnes, parce que la conférence de Damas est une preuve qu'elle est bonne, à mon avis. Ça ne veut pas dire que les articles relayés par Stephen Chronicle sont à mettre à la poubelle du tout. Mais je pense que ça invite à la vigilance, parce que personne, même à ce niveau-là, n'est à l'abri d'une erreur. Il y a tellement d'informations. Qui d'entre nous vérifions toutes nos informations absolument à fond avant de les diffuser? Moi, j'essaie de le faire, mais voilà. Et je veux donner, excusez-moi, parce que j'ai un deuxième exemple pour dire que c'est pas juste un cas isolé. Michiko, le lendemain, me dit, viens voir Catherine. Là, il y a une information sur un site japonais, et c'est sous-titré en anglais. C'est la conférence de François Hollande après l'attentat. Mais je comprends pas tout. J'aimerais bien que tu me dises, parce qu'ils disent que François Hollande, il révèle que c'est les Illuminati derrière l'attentat. Et oui, mais que nous on sache que c'est false flag, c'est une chose, mais que Hollande le révèle à la France, c'est une autre chose. Alors du coup, je vais écouter, et François Hollande dit simplement nous combattrons, je sais plus exactement dans quel terme, mais ces actes de violence perpétrés par des êtres fous, des illuminés, des gens sans foi ni loi, hein, quelque chose comme ça. Et c'est les illuminés qu'ils traduisent en anglais et donc en japonais par Illuminati. Et ensuite, tu as la voix off en anglais qui dit, oui, je sais, vous allez dire qu'illuminé n'est pas la traduction de ce qu'a dit le président Hollande. Cependant, regardez, il montre le livre, les Illuminati s'appelaient les Illuminés de Bilderberg. Mais même ça, ça prouve rien. On est d'accord, en tant que Français, tous les jours, on dit, ah, c'est un illuminé, quoi. Donc, c'était juste pour dire que, ah, voilà, cette information, elle a fait le tour du monde. Elle était déjà traduite en anglais et en allemand 2 jours après. La communauté japonaise dissidente, enfin, que Kone Michiko pensait que c'était vrai. Voilà. Et Fulford avait relayé. Donc, voilà. Donc, je veux dire, là, il faut être vraiment vigilant, à mon avis. Enfin, moi, je me suis dit, oulala, j'ai enlevé mes postes. Voilà. Alors, il y avait Véronique d'abord qui veut témoigner sur la rue.
Oui, Véronique, effectivement, tout comme Catherine. Et comme Nicolas et d'autres, sans doute membres de PFC, j'ai lu cet article donc sur The Event Chronicle, ce site. Cet article de Gordon Duff, merci, qui soi-disant déclarait que ça avait été tourné dans Hollywood. C'était une mise en scène. C'est textuellement, ça a été tourné dans les studios d'Hollywood. Et ça m'a profondément choquée en tant que membre de PFC, puisque tout de même, The Event Chronicle, c'est censé être un de nos points de référence, d'une part. Et d'autre part, j'habite 44 rue de Meaux, et la C3, la Citroën CX, s'est arrêtée au 45, c'est-à-dire sous ma fenêtre. Donc je suis bien placée pour vous dire que c'est dans Paris, malheureusement. Je ne devrais pas le dire sur ce ton. Ça s'est passé dans Paris, effectivement. Voilà. Mais c'est malheureux que des infos, de fausses informations. Alors là, typiquement, c'est une fausse information. Alors, est-ce que c'est une exagération involontaire Je l'espère. J'espère que ça n'est pas de la mauvaise foi ou quelque chose de... une volonté de distordre l'information, je l'espère, mais c'est complètement faux. Voilà, je peux témoigner, c'est tout.
Oui, je voulais dire à propos des manipulations, il est bien évident qu'il y a forcément des personnes qui vont relier exprès des informations entre guillemets conspirationnistes, mais fausses exprès, justement pour décrédibiliser toute personne qui... enfin, ceux qui font des recherches sur les manipulations. C'est évident que ça existe.
Mais là, c'est Gordon Duff lui-même.
Oui, non, mais je dis pas que Gordon Duff... moi, je sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Est-ce que c'est qu'il met ce... est-ce qu'il y a une obsession de sa vision des choses qui fait qu'il surinterprète les faits ou est-ce que c'est plus... mal attentionné, ou est-ce que c'est une vraie enfin, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus problématique, ça j'en sais rien. Mais toujours est-il, c'est certain qu'il faut de toute façon faire attention. Et c'est vrai que c'est bien effectivement de faire attention et d'éviter au maximum de propager les trucs qui sont pas fiables, parce que ça contribue à avoir l'effet inverse, hein, décrédibilisant ceux qui essaient justement de mettre de révéler les manipulations et tout ça. Hein. Alors après, par rapport à l'exemple avec Hollande qui parle de illuminé, moi personnellement, je suis moins choqué par ce truc. Parce que là, c'est purement de l'interprétation. C'est-à-dire qu'on peut, En fait, même moi, à la limite, je dis peut-être, j'en sais rien, je n'y crois pas trop, mais peut-être, si ça se trouve, c'est ce qu'il a voulu dire. Hein. Enfin, j'en sais rien. Mais alors après, l'affirmer... Ah oui, parce que toi, tu veux dire qu'en fait...
Moi, je ne débat pas sur le...
Pas de dialogue. Donc,
toi, tu veux dire qu'en fait, Hollande était censé affirmer, en fait, clairement que c'était les Illuminati, en fait. C'est ça que tu veux dire.
Finis ce que tu as à dire.
Hein. Enfin, voilà, toujours est-il, quand c'est des choses un peu ambiguës comme ça, moi, ça me choque. C'est moins grave que quand on... on dit quelque chose qui est faux de manière certaine, enfin flagrante quoi. Voilà, là c'est de l'interprétation, même si moi personnellement j'évite effectivement ce genre de vidéo avec Hollande qui dit illuminé et tout, parce que justement comme c'est pas net, comme on sait pas trop, Je me dis, il vaut mieux pas en parler, parce que dans le doute, il vaut mieux être un peu à s'abstenir, à être un peu réservé que voilà.
Attends, je vais parce que par rapport à ce que je te le passe, je voulais dire que moi, c'était pas un débat sur le fond, c'est-à-dire est-ce que oui ou non c'est illuminatif ou quoi. Et en plus, on sait que François Hollande est franc-maçon. Bon, c'était pas la question de ça, c'était juste donc une invitation à la vigilance sur nos postes. Moi, il me semblait être vigilante et je veillais à vraiment aller rechercher les informations avant de les poster. Et je vois que je ne l'étais pas forcément suffisamment. Et donc, voilà, c'est une invitation à la vigilance. C'est ça que ça veut dire.
Oui, je suis complètement d'accord avec Cathy. Et au niveau de Illuminati, ça, c'est mon avis. Hein, ça, c'est personnel que je pense, c'est qu'il y a deux communications. Il y a deux niveaux de communication. C'est un qui est directement au peuple, donc Hollande, directement au peuple, mais l'autre qui est, c'est le signe pour annoncer des gens qui connectent à Illuminati. C'est-à-dire que le même Kabbal, il annonce de Kabbal, peut-être, qui est contre d'autres parties du Kabbal, et Hollande qui a lancé de cette parole à d'autres parties qui est contre le parti d'Hollande. Quelque chose comme ça. J'ai révélé un petit peu après écouter le FOD qui donne des speeches chaque semaine en ce moment au Japon. Voilà, j'ai compris à peu près comme ça. Et puis, ce qui est très important pour moi dans cet événement de Golden Dove et Fulford aussi, parce que Fulford a lancé que première, donc le speech, et que juste après l'événement, et que c'est possible que personne n'est mort. Et puis après, j'étais vigilante, donc je commence à faire des recherches et de ramasser des informations et tout ça. Et que, en fait, c'est vrai que Premier Police a risque d'être vivant. Et puis, il y a plusieurs choses que n'est pas du tout, crédible, pas crédible, tous les médias racontés. Donc, je crois que c'est donc ce Charlie Hebdo qui a fondé à l'époque de Mitterrand et a là de soutien de l'État. Donc, c'est toujours il est soutenu par le pouvoir. Donc, c'est évident que possible de. Exprès qu'ils font, ils font des, comment ça s'appelle, de mangas, caricatures, voilà, provoquer l'autre. Et bien sûr, donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce qui est très important pour moi, c'est que j'ai créé le blog et que beaucoup de gens qui viennent regarder et que je suis en tant que parisienne à Paris et que je prends la responsabilité, je sentais la responsabilité. Donc dire vraiment des choses plus près de réalité. Donc voilà. Et donc, le titre, c'est « Fais attention » de fausse,
informations incomplètes.
Ah, voilà, des informations incomplètes. Et donc, voilà, je provoquais au lecteur. Donc, ils ne avalent pas tout de suite les informations, n'importe quelles informations.
Et après, donc, deuxième, donc, j'ai écrit de l'histoire, de, hein, votre histoire avec de l'adresse et tout ça. Et puis, Illuminati, Illuminate, et Illuminé, et aussi, et que n'était pas clair. OK ? Donc, c'est pas du tout...
que tu as un blog qui est très...
Oui. Voilà, mon blog est beaucoup...
Lu ?
Beaucoup lu. Et donc, après, deuxième, donc, deuxième réunion avec Fulfold, et Fulfold qui a changé de la vie. Donc, c'est pas grâce à mon blog, mais vous comprenez, il a changé la vie et que peut-être il y a des morts. Peut-être il y a des morts. Donc, c'est parce que. Il a vraiment, j'ai senti, mon cœur a senti qu'il était trop léger, la première tour, n'est-ce pas? Et donc, je suis convaincue, deuxième tour, mais comme ça, à chacun qui prenne la responsabilité et connecté avec le cœur. Ça, c'est moi, qui, comme ça que j'ai fait et que... Tout à l'heure, Claire a senti que la première fois que j'ai senti ton intuition, qui n'était vraiment pas bizarre, c'était bizarre quand même de cet événement, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est la première intuition. Première. Alors, nous, on n'écoute pas vraiment d'information qui vient première fois, n'est-ce pas? Donc après, la concentration à des choses extérieures. On écoute à ceci et cela. Et après, on oublie complètement première information qui vient de l'intérieur, n'est-ce pas? Donc moi, j'ai vraiment décidé d'écouter d'abord mon cœur. Et n'oublie pas, et puis je continue à donc, le regarder, observer. Et tout ça que moi j'étais très très contente et que voilà, j'ai annoncé aussi de la méditation ce soir pour Notre-Dame. Et puis ceux qui n'ont pas encore pratiqué la méditation de dimanche, j'ai proposé d'aller à la site d'une japonaise qui propose aussi. Et donc après, cette dame qui organise d'un site assez important, beaucoup des informations spirituelles en même temps, comme Fulfold, comme d'autres journalistes de réalité, et qui est très... 3-4 sujets importants dans tous les jours. Donc beaucoup de gens qui viennent pour regarder. Et que cette dame qui a même avant proposé de mon blog, de notre méditation à Paris, et qu'elle a annoncé un parole, qu'elle était très très touchée, que moi, j'ai proposé d'aller chez elle, avec elle, avec son site. Et que tout ça, pour elle, était vraiment très, très touché. Et qu'elle sentait vraiment d'être avec la lumière.
C'est bon ? Je voudrais, pour donner des précisions sur ce que Michiko a dit, vous avez tous... Voilà, c'est pour ça que je... Voilà. Michiko, quand elle a connu PFC, elle a créé un blog, enfin elle avait déjà un blog, mais elle a très orienté sur l'événement. Et c'est un blog qui fait le pont entre Paris et le Japon. Et elle relaye tout ce qui se passe sur, beaucoup au niveau de l'ascension et au niveau particulièrement de l'événement. C'est en japonais. Elle l'écrit en japonais pour donc. Et son blog est une référence au Japon. C'est-à-dire qu'il y a énormément de visiteurs sur son blog, surtout en ce qui concerne l'événement. Voilà. Donc, quand il y a eu les attentats, forcément, comme elle habite à Paris, les gens sont beaucoup venus sur son blog. Mais il y a vraiment beaucoup de fréquentation. C'est vraiment une référence. Donc, du coup, quand elle a posté, quand il y a eu ces histoires qu'on a vues, elle a tout de suite mis sur son blog, puisqu'elle me disait, oui, il y a des gens au Japon qui me disent qu'il n'y a pas eu d'attentat ou qu'il n'y a pas de mort. Elle a relayé un premier post en disant, attention, nous, on a vu avec Google Earth, on peut y aller, et on a même une amie du groupe PFC qui habite dans la rue. Et du coup, c'est ce qu'elle dit, Benjamin Fulford qui disait qu'il n'y avait peut-être même pas eu de mort, il a fait ensuite un post où il disait que finalement, il y avait peut-être bien des morts. Alors, et elle dit, bon, on ne sait pas si ça vient de son blog, mais comme son blog est une référence au Japon et qu'il est très lu, et à la suite de ça, elle a fait un deuxième post, et il y a une dame qui est au Japon, qui, elle, rédige un site, donc pas un blog, mais un site, un gros site, où il y a des canalisations, où il y a tout ça, qui sont donc en japonais, qui a demandé à Michiko d'intervenir sur son site par rapport à tout ça, quoi. Donc, du coup, c'est un honneur pour Michiko, et en même temps, voilà, ça veut dire qu'il y a des informations au Japon qui transitent par Fulford, mais qui transitent aussi par là. Et peut-être que c'était intéressant. Ah, moi, je les ai dit. Alors, c'était clair, oui.
C'est très important pour au niveau de mon blog. Il y a une femme qui est venue, qui a laissé le comment, comment s'appelle, commentaire, et que moi j'ai vraiment écrit que peut-être nous étions pas puissantes pour purification, qu'on a fait déjà plusieurs endroits à Paris. Et que donc on a mal fait, on n'a pas bien puissante, c'est pour ça que il y a des attentats, etc. Donc j'étais prêt, il faut vraiment réfléchir. D'abord moi qui dois réfléchir, et puis tous les membres de PFC doivent réfléchir tout ça. Donc moi j'ai commencé comme ça. Et puis bon, après donc une dame qui a laissé le commentaire que non, c'est pas vous qui était un défaut, mais c'est au contraire, c'est miracle que vous faites. C'est un miracle que vous faites parce que d'abord en France, Français sont très individualistes. Alors en plus vous rassemblez et de faire le travail ensemble. Donc elle nous a remercié beaucoup. Beaucoup. Donc voilà, ça m'a beaucoup touchée. Deuxième chose, deuxième cadeau. Voilà, donc je vais transmettre ça.
Maintenant, si je me souviens en fait de ce qui s'est produit en moi, évidemment, je pense comme des milliers, centaines de milliers, voire des millions de personnes. En fait, moi, j'ai été affectée dans mes intestins, dans mon estomac, dans mon cœur. Hein. J'ai reçu comme un coup de canon là-dedans. Évidemment, envie de pleurer et tout quand j'ai appris tout ça. Et je trouve que donc ça touche évidemment au centre émotionnel en premier. C'est fait exprès. Enfin, c'est comme ça que ça marche. Et je trouve qu'il est vraiment pour moi, je ne sais pas pour vous, vous êtes peut-être mieux, plus dans le discernement que moi. Je trouve qu'il est vraiment, pour moi, extrêmement difficile de pouvoir discerner ce qui est juste et ce qui est faux, dans la mesure où je n'ai pas le temps ni l'envie de faire des investigations. Est-ce que les sources sont justes ? Alors, il faut y passer des heures, je ne peux pas faire ça, j'ai vraiment autre chose à faire. Je ne peux pas, je n'ai pas envie, c'est compliqué, je ne sais pas. En tout cas, avoir du discernement, on parlait d'écouter son cœur. Moi, je sais quand je ressens un sentiment pour quelqu'un, là, c'est pas difficile, c'est mes neurones du cœur qui parlent, si on peut parler de neurones du cœur. Mais quand c'est des choses comme ça, comment puis-je savoir si c'est juste, pas juste ? J'en sais rien. Un coup, j'apprends ça, hop, je balance là. Un coup, j'apprends autre chose, hop, je balance là. Puis après, je me dis... Bon, bien sûr, j'ai eu des sentiments. Par exemple, je me suis dit, non, mais c'est pas possible que comment il s'appelle, notre président François Hollande, qui me paraît quand même quelqu'un de beaucoup plus doux que l'autre, là, l'affreux Jojo qu'on avait avant, c'est pas possible que ce type ait commandité un attentat où il a fait flinguer 12 personnes. Non, mais d'accord, mais c'est quand même lui le chef officiel des armées et des services secrets. C'est quand même lui qui...
Ça veut pas dire que c'est un false flag. Ça veut pas dire que c'est un false flag.
Oui, je sais ce que ça veut dire, fausse bannière.
Oui, mais ça ne veut pas dire que c'est Hollande qui est derrière ça. Non. C'est pas ça que ça veut dire.
Ça peut, terminé, oui, ça peut être évidemment des entités hautes, bien hautes que lui, mais il n'est pas sans savoir ce qui se passe. Ou alors je suis complètement innocente et stupide. Je pensais que lui, en tant que chef d'État, il était au courant de ce genre de choses. Et là, ça m'a fait tellement... Je me suis dit, c'est pas possible que ce type soit schizophrène. Un coup, il remercie, il prend dans ses bras le médecin, le fameux médecin de Charlie Hebdo, là. Bon, alors je comprends bien que c'est pas forcément lui qui a créé tout ça, c'est des gens, probablement des gens de la cabale, enfin ce qu'on appelle ici la cabale, les élites sombres, mais comment est-ce qu'il peut ne pas être au courant? Enfin moi, ça, tout ça c'est très très compliqué pour moi, j'avoue que je m'y perds. En tout cas, mon message c'était de dire, c'est très très difficile pour moi d'avoir du discernement sur ce qui est juste, ce qui est faux, ce qui est très très difficile, très très difficile.
Voilà, je voudrais un petit peu recentrer le débat. On parle de PFC. Alors, bien sûr, ça, c'est la conscience, mais on ne va pas entrer dans les détails ni parler seulement de ça. Et puis, je rappelle aussi que le micro, c'est un instrument pour qu'on s'écoute. C'est-à-dire que lorsqu'une personne parle, bah, une autre personne ne parle pas en même temps, de manière à ce qu'on s'écoute, hein, c'est tout. Et puis... Alors on peut garder en mémoire tout ce qu'on a besoin de dire et puis le dire au moment où on a le micro. Sinon, c'est tout à fait inaudible hein, de l'autre côté, de la partie de ceux qui nous écoutent. Alors moi, je veux changer de sujet pour une actualité qui touche à la géopolitique. La géopolitique est importante parce que l'événement se produira... certainement avec des conjonctions de phénomènes géopolitiques. Je suis le cours de l'or, et le cours de l'or est hautement émotionnel dans le monde. Dès qu'il y a un risque, quelque part, les gens achètent de l'or, et dès que les gens achètent de l'or, l'or monte. Pas les gens, les gouvernements aussi achètent de l'or. En ce moment, il y a une montée en flèche de l'or. Hein, il a passé la barre des 200 euros au niveau du Napoléon, il est passé au-delà des 1200 dollars l'once au niveau du cours international. C'est très indicateur de le monde à la fièvre ou pas. C'est le thermomètre émotionnel. Qu'est-ce qui se passe en géopolitique? Dans une semaine, il y a des élections en Grèce qui sont extrêmement redoutées par l'Europe. Parce que le parti principal d'opposition pourrait gagner aux législatives. Il est donné gagnant par les sondages et qu'il a laissé sous-entendre qu'il pourrait abandonner les remboursements d'emprunt et qu'il arrêterait l'austérité. Donc, bien sûr, ça ne plaît pas du tout à l'Union européenne qui essaye d'influencer, qui essaye de... Donc, c'est intéressant de se pencher... sur le cours de l'or, je pense que au moment qui précédera l'événement, le cours de l'or montera en flèche. Et on sait que la Russie et la Chine achètent des quantités phénoménales d'or en ce moment. Ils ont des parts très importantes. Russie, Inde et Chine se partagent pratiquement la totalité des achats d'or. Et c'est monté d'une manière exponentielle ces derniers temps. Ce qui veut tendre à dire qu'ils font des réserves, parce que l'or est une valeur de refuge, hein, qui ne va pas perdre sa valeur en cas d'accélération. Bien au contraire, il va gagner de la valeur. Faire que la monnaie... Alors, Poutine parlait de créer un rouble adossé à l'or. Et ce serait une décision extrêmement audacieuse. Ce serait la première monnaie au monde adossée à l'or, ce qui veut dire qu'elle aurait une fiabilité de 100% par rapport au dollar, par rapport à l'euro. si ça, ça voit le jour, c'est une nouvelle extrêmement importante pour toute l'économie mondiale. Le fait qu'on puisse prendre un rouble et dire « je veux de l'or en échange ». Et c'est peut-être pour ça que Poutine, enfin la Russie, accumule énormément de réserves d'or en ce moment. Voilà, c'est à mettre en relation avec les BRICS également, qui préparent une sorte de puissance économique alternative dans ce monde. Ça fait partie des changements graduels qui se passent. La Chine est officiellement, depuis peu de temps, la première puissance économique mondiale, officiellement. Elle est passée devant les États-Unis. Il y a quelque chose qui bouge. Ça n'a pas fait la une des journaux, mais c'est une nouvelle importante. Le jour où les États-Unis n'auront plus la monnaie de réserve à l'échelle mondiale, ça sera une grande chute du dollar, parce que le fait qu'il soit monnaie de réserve donne une certaine crédibilité au dollar. Mais si la Chine est l'acteur économique numéro un, bon, il y a des chances que l'ordre international se bouleverse un petit peu.
Toujours là-dessus, je donne une information que Juliette m'a donnée ce matin. A priori, la Suisse est désindexée de l'euro. Voilà, donc puisqu'elle était indexée sur l'euro, et elle se désindexe de l'euro. Donc moi, je maîtrise mal le jargon financier, mais d'après Juliette, c'est un signe très très important. Ben, ça veut dire qu'il n'y a plus d'équivalence entre le franc suisse et l'euro, quoi, tu vois. Donc je ne suis pas dans le jargon financier, mais elle m'a dit que c'était très important et donc je le retransmets. C'est tout ce que je peux vous dire. On prenne qui pourra.
Bon, tout simplement, c'est que le franc suisse augmente par rapport à l'euro. Voilà, tout simplement. Et ils ont fermé les boutiques, donc les Suisses ne peuvent même plus acheter des euros en ce moment. Voilà. Donc le Suisse repart à la hausse, comme c'était avant, à un moment donné. Ils avaient tout bloqué exprès.
Oui, voilà,
ils l'ont débloqué. Puisque l'euro descend. Donc c'est bien pour nous, d'une certaine façon, parce qu'on va pouvoir revendre, puisqu'on était bloqué, nous, à 1,40$. Oui, c'est ça, 1,40$. Enfin bref, on était très haut par rapport au dollar. Donc, on avait du mal à vendre nos exportations. Il n'y avait que les Allemands qui vendaient. Voilà. Et pas la France. Bref. C'est peut-être mieux maintenant. Bonsoir à tous. Nous étions 9 ce soir. Tout le monde est frigorifié. Moi, je suis très chaud, comme d'habitude. C'était Jacouille la Fripouille. Pour moi, c'est fini. C'était pas du tout. Bonsoir.
On dit j'ai très chaud.
Je m'en fous.
Véronique, un petit mot rapide tout de même pour cette belle méditation de lumière sur Paris. Un grand remerciement à Antoine Valli, qui en a été l'instigateur, qui a insufflé à PFC Paris-Romainville de se réunir sur place, et puis à PFC Mondial de se joindre à la même heure. Nous en aurons certainement des échos, soit de la part d'Antoine, soit de la part de Cobra, puisque Cobra suit de près, je dirais, la vibration de la ville de Paris, qui est en relation avec Saint-Germain. Saint-Germain étant lui-même totalement lié à ce qui concerne les fonds de prospérité et leur prochaine distribution.
Oui, un petit retour de témoignage aussi sur la belle méditation que nous avons fait autour de Notre-Dame à l'initiative que j'applaudis d'Antoine Valli. Ben, bravo Antoine, depuis Vancouver, d'avoir impulsé une telle méditation dans Paris. Tu as une télécommande qui est très très puissante là sur, sur notre pouvoir à nous réunir au nom de cette lumière. Alors pendant qu'on faisait le tour de Notre-Dame dans le sens des aiguilles d'une montre, et je visualisais la lumière violette. Je la visualisais sur Notre-Dame. Et puis ensuite, il s'est passé un truc. Je me disais, bon, Antoine suggérait de la visualiser sur Paris. Eh bien, elle s'est étendue en spirale. Et j'ai trouvé que cette spirale recouvrait les arrondissements qui sont déjà en spirale. Dans Paris, il y a une spirale. Les arrondissements sont numérotés en spirale. C'est comme un vortex, en fait, quand on y pense un petit peu. Alors, je ne sais pas. Enfin, c'est le premier arrondissement, il est au centre de la spirale. Hein. C'est Rivoli ou des choses comme ça. Donc, la lumière violette a évolué en spirale dans ma visualisation. Et puis, je me dis, ben, Paris, ok, mais la France, pourquoi pas la France ? Et puis cette spirale a continué sur toute la France. Et puis après, Cathy a parlé du Nigeria. Je me suis dit, ben oui, il n'y a pas que la France. Le monde entier est en réaction avec tout ce déséquilibre énergétique. Donc la spirale, elle a évolué autour de la France. Elle a englobé l'Afrique. Et puis finalement, elle a englobé toute la planète. Hein. Donc j'ai trouvé que c'était... ça partait d'un point central et puis finalement, il n'y avait aucune raison de la limiter à Paris ou à quoi que ce soit d'autre. La Terre entière, pour moi, là, on a bénéficié. Donc voilà, c'était une belle expérience pour moi que de vivre ça de cette manière. Alors, j'ai fait une recherche rapide à propos du franc-suisse. Il y avait un cours plancher de 0,80 euros. En dessous duquel les Suisses n'autorisaient pas le franc suisse à descendre. Et ce taux plancher a été supprimé. Hein. C'est ça qui a... Alors, comme il y a des perspectives qui ne sont pas positives, qui s'annoncent en économie, en finance, les gens se réfugient dans le franc suisse comme dans l'or, parce que le franc suisse est crédible. Ce qui fait que le cours du franc suisse monte énormément et que les entreprises suisses sont dévalorisées parce que leurs produits sont chers à l'étranger. Hein, quand le cours monte, bah, les exports sont pénalisés. Et ceci est à mettre en corrélation avec le fait que la Banque Centrale Européenne va prochainement inaugurer ce qu'elle n'a jamais fait auparavant. Je m'étonne que personne n'en ait parlé. Elle va commencer la planche à billets. C'est presque officiel. Hein. Il y a une réunion la veille des élections grecques. Il y a une réunion de la BCE qui va commencer à créer de la monnaie pour combattre la déflation. Alors, les prix baissent. Mettez-vous dans la peau d'un consommateur. Les prix baissent. C'est moins cher de remplir son carburant à la pompe et la BCE va lutter contre ça. Ça veut dire qu'elle va faire remonter les prix. Pour la BCE, l'avantage, c'est que les prix montent pour que la consommation monte, etc. Mais pour un consommateur, que demain la baguette coûte moins cher ou le litre d'essence coûte moins cher, c'est tout bénéfice. Mais la BCE est en train d'essayer de faire l'inverse en créant de la monnaie avec de la planche à billets, chose qui était contraire à ses statuts. C'est-à-dire qu'elle ne l'a jamais fait. Depuis la création de l'euro, elle n'a jamais fabriqué de la monnaie artificielle. Donc, l'euro est en train de baisser maintenant parce que tout le monde est convaincu que la Banque Centrale Européenne va imprimer de la monnaie pour créer de l'inflation. Donc, on est sur la même voie que les USA. Hein, fabriquer de la fausse monnaie pour créer de l'inflation. C'est purement politique. Hein. Aucun consommateur ne veut ça.
Alors, je suis peut-être une niaise, mais sans doute. En finance, je suis une niaise, c'est sûr. Mais elle veut créer une inflation. Mais c'est-à-dire qu'elle veut nous ruiner parce qu'on est déjà assez ruinés, je veux dire, la plupart des habitants. Les salaires n'augmentent pas depuis 5 ans, il y a beaucoup de chômeurs. Qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut créer un marasme encore plus grand ? Quelle est l'utilité de tout ça ?
Peut-être elle imprime de l'argent pour avoir des sous, tout simplement, peut-être. Sauf que la conséquence, c'est l'inflation pour les consommateurs, où les prix montent. Mais je crois que le fait d'imprimer des billets, ça permet d'avoir des sous. Donc ils ont de l'argent, ceux qui impriment les billets. Donc ça leur permet d'avoir des fonds qui apparaissent magiquement. Mais le prix à payer pour le consommateur, enfin pour le citoyen, c'est que pour ceux qui impriment les billets.
Alors on appelle ça, aux États-Unis, on appelle ça le quantitative easing, c'est-à-dire une facilité de devise. Une facilité, ça veut dire il manque des liquidités dans l'économie, on en fabrique tout simplement. Alors pour moi, qui ne suis pas non plus un spécialiste de l'économie, l'idée c'est qu'il n'y a pas de croissance. Donc on va mettre plein de billets dans le marché pour qu'il y ait de la croissance. Parce que la croissance, c'est l'idole, c'est le dieu, c'est ce qui consommait toujours plus. S'il n'y a pas de monnaie, il n'y a pas de consommation. Si les entreprises sont frileuses parce qu'elles n'ont pas de liquidité d'avance, alors il n'y a pas de consommation, les consommateurs non plus. Donc on inonde le marché avec des billets. On inonde le marché avec des billets, ce qui fait que l'euro vaut moins puisqu'il y a une plus grande quantité de billets pour une même masse monétaire standard. L'effet voulu, c'est que les gens dépensent plus, parce qu'il y a plus d'argent dans les entreprises, voilà. Je connais pas tous les rouages, mais aux États-Unis, c'était la politique de la banque de la Federal Reserve, c'est d'inonder le marché en rachetant des dettes, en faisant pour faciliter la croissance.
Je crois que tout ça, ce qu'on fabrique de l'argent, ça devient de dette. Vous connaissez ce système?
Non, mais moi, j'ai rien à dire. C'était la question pour qu'il explique plus ce qu'il veut dire.
Ouais, moi, tout ce que je peux dire qui me semble évident, c'est que quand on fabrique de la monnaie, il y a plus d'argent en circulation, donc l'argent a moins de valeur. Donc il faut plus d'argent pour acheter la même chose. Vu qu'il y en a plus en circulation, ça semble assez logique. Donc comme il faut plus d'argent pour acheter la même chose, ça veut dire que les choses deviennent plus chères. Mais si par ailleurs les salaires n'ont pas augmenté, on va en ressentir les conséquences.
Alors... Une déflation au niveau des gouvernements, c'est quelque chose de négatif, parce qu'il n'y a pas de croissance. Et que le dieu à idolâtrer, c'est la croissance. C'est toujours plus. Hein. Il n'y en a jamais assez, toujours plus. Et quand il y a de la déflation, ça ne sert pas l'idée fixe de la croissance. Donc on rajoute des billets sur le marché, mais ce n'est pas toi qui vas les recevoir sur ton compte en banque. Hein. C'est... des dettes souveraines qui sont rachetées, donc l'État peut emprunter davantage, peut créer des emplois, tout ça c'est fictif. Hein. On met une grosse masse de billets sur le marché et on se croit plus riche au niveau de la collectivité. Hein. C'est pas toi. Toi, tu vas peut-être en bénéficier indirectement. Mais l'idée, c'est de relancer la croissance en disant, il n'y a pas assez d'argent, tiens, voilà de l'argent. Mais c'est un argent issu de rien, issu de l'imprimante de la Banque Centrale Européenne. Donc c'est le même, c'est ce qui fait grandir la dette nationale de manière exponentielle, parce que il y a de l'argent qui est apparu du chapeau. Hein. Et c'est ce qui fait qu'aux États-Unis, ils ont une dette nationale qui est des trillions de dollars, qui bat des records et qui monte à la verticale depuis quelques années à cause de la politique accommodante de la, de la Banque Federal Reserve. Donc, l'Europe, et en particulier l'Allemagne, avait instauré cette règle absolue de ne pas fabriquer de monnaie. Hein. C'était une règle de l'Europe. Et pour la première fois, cette règle va être brisée. C'est un signe assez inquiétant, je dirais, pour nous, parce que tout va être dévalorisé, et puis les prix vont à nouveau augmenter. Hein. Ceux qui sont derrière cette décision ont assurément un but de manipulation de l'économie. Hein. Ça, c'est assez clair. Voilà, Juliette, aide-nous hein, à comprendre. Juliette revient, enfin. On est comme des petits-enfants qui essayons de comprendre ce qui se passe dans la cour de récré. Voilà, mais bon, une source qui est intéressante. Moi, au hasard, j'ai pioché Yahoo Finance. Yahoo Finance donne des informations assez intéressantes. Yahoo Finance, même s'il y a des choses complètement nulles dans les coins, mais ça donne en temps réel les sursauts, les rachats, les grandes directions macroéconomiques. Moi, je puise de l'information sur Yahoo Finance, et Le Monde aussi. Bon, il y a un mouvement général d'abandon de La Réunion. La réunion va se terminer faute de participants. Voilà, chers membres de PFC, amis, nous vous saluons et nous vous disons à la prochaine.